Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du lundi 3 février 2025, en direct de Washington, Rosine Ounezero. Pour commencer, les titres. Le président américain Donald Trump suspend pour un mois l'application de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance du Mexique. Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi vont participer samedi à un sommet extraordinaire au sujet du conflit en RDC. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rejette les accusations de son homologue américain Donald Trump sur lesquelles l'Afrique du Sud confisquerait des terres après la promulgation d'une loi d'expropriation. Et dans notre partie magazine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera reçu mardi par Donald Trump. Il sera le premier dirigeant étranger à être reçu par le président américain depuis son investiture.
Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous porterons l'alliance États-Unis-Israël à des sommets encore plus élevés.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Donald Trump suspend pour un mois l'application de nouveaux droits de douane sur les produits en provenance du Mexique après que ce dernier a accepté de renforcer sa frontière au nord avec 10 000 membres de la garde nationale pour endiguer le flux de drogue illégale, en particulier le fentanyl. Alexandrine Holognon.
Le président américain et son homologue mexicain se sont entretenus par téléphone ce lundi, quelques heures avant l'entrée en vigueur des droits de douane américains sur le Mexique, la Chine et le Canada. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a déclaré que l'accord comprenait également un engagement des États-Unis à agir pour empêcher le trafic d'armes de grande puissance vers le Mexique. Les deux pays mettront à profit cette pause d'un mois pour poursuivre les négociations, a déclaré Donald Trump. Le président américain a aussi annoncé qu'il s'était entretenu avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et qu'il le ferait à nouveau plus tard dans la journée. Donald Trump a mis à exécution sa menace de s'en prendre aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis en imposant à partir de mardi 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Le Canada a riposté samedi en annonçant l'imposition de 25% de droits de douane sur les produits américains. La Chine a quant à elle assuré qu'elle prendrait les mesures correspondantes pour protéger ses droits et intérêts.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré au président du Panama qu'il devait réduire l'influence chinoise sur la zone du canal de Panama. C'était hier, lors de son premier voyage à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine. Le département d'État américain a affirmé dans un résumé de la réunion que Marco Rubio a informé le président José Raúl Mulino que son homologue Donald Trump estime que la situation actuelle du canal est inacceptable. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rejeté les accusations de Donald Trump selon lesquelles l'Afrique du Sud confisquerait des terres après l'adoption d'une loi d'expropriation. Le président américain a menacé de suspendre l'aide américaine jusqu'à une enquête approfondie. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucune terre, a assuré M. Ramaphosa dans un communiqué après les déclarations du président américain. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Le chef de l'État sud-africain a répliqué que cette loi vise à garantir un accès équitable à la terre sans confiscation arbitraire. Des opposants craignent cependant des dérives similaires à celles du Zimbabwe. La question foncière est un sujet clivant en Afrique du Sud. La majorité des terres sont détenues par la minorité blanche du pays, héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant l'apartheid et la colonisation. Le président sud-africain a promulgué fin janvier une loi permettant au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d'intérêt général, de décider d'expropriation sans compensation. Pretoria insiste sur ses relations stratégiques avec Washington, tandis qu'un ministre sud-africain a suggéré de cesser l'exportation de minerais vers les États-Unis en réponse aux menaces de sanctions.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a balayé lundi les critiques de Donald Trump après l'annonce du retrait américain de l'organisation, conseillant à Washington de faire plutôt des suggestions de réformes. Il a plaidé en faveur d'un dialogue constructif
pour préserver et renforcer les relations historiques entre l'OMS et les États-Unis qui ont contribué à des impacts significatifs et la liste est longue, telles que l'éradication de la variole. Guerre au Soudan, les Nations Unies ont condamné hier les récentes attaques meurtrières contre des civils dans un marché à Omdurman, proche banlieue de Khartoum, qui a fait au moins 60 morts selon elle. Dans un communiqué, la coordinatrice de l'action de l'Agence d'action humanitaire des Nations Unies au Soudan, Clémentine Kouetta Salami, a dénoncé ce qu'elle qualifie d'horrible attaque indiscriminée qui a visé samedi un marché à Omdurman et d'autres zones résidentielles de la capitale Khartoum. Le gouvernement de la région somalienne semi-autonome du Puntland a affirmé que les frappes aériennes des États-Unis sur les monts Golis avait tué des figures clés du groupe État islamique. Un communiqué du gouvernement somalien publié à Mogadiscio parle d'une opération coordonnée conjointement par les gouvernements somaliens et américains visant des chefs haut placés de l'État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi vont participer samedi à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au sujet du conflit en RDC, l'annonce a été faite ce lundi par le Kenya. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce sommet aura lieu à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, précise la présidence kényane qui dirige actuellement l'EAC. Un peu plus tôt, l'Afrique du Sud a martelé qu'elle ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC après la mort de 14 de ses soldats dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission prendra fin en fonction de la mise en œuvre de diverses mesures de confiance et lorsque le cessez-le-feu auquel nous avons appelé prendra racine. C'est ce qu'a déclaré le président Cyril Ramaphosa après des appels sur la scène politique sud-africaine à un retrait des troupes déployées en RDC dans le cadre de missions de l'ONU ou de l'Organisation de coopération régionale d'Afrique australe. L'opposant Julius Malema a jugé que le déploiement est irresponsable et injustifiable et a affirmé qu'il est impératif que l'Afrique du Sud retire ses troupes afin d'assurer leur sécurité. La deuxième formation politique du pays, l'Alliance démocratique, a demandé un débat parlementaire urgent sur le sujet. Le président rwandais Paul Kagame a estimé que la SAMI DRC n'était pas une force de maintien de la paix et n'avait pas sa place dans cette situation.
Le gouvernement sud-africain a donné à Taïwan jusqu'en fin mars pour déplacer son ambassade de facto de Pretoria, exigeant également qu'elle soit rebaptisée en bureau commercial. Cette décision, attribuée à la pression de la Chine, intervient après la rupture des relations diplomatiques officielles entre l'Afrique du Sud et Taïwan en 1997. Taïwan a dénoncé cette demande comme une intensification de la répression chinoise dans le pays, bien que des négociations entre les deux pays, les deux parties, soient en cours. Le Hamas est prêt à entamer les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza, selon deux responsables du mouvement islamiste palestinien. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte sont impliqués depuis des mois pour tenter de permettre aux deux protagonistes de trouver un accord. Le point avec Eric Manilakis.
Les discussions porteront notamment sur la prévention d'un retour à la guerre, le retrait militaire israélien de Gaza et les critères des échanges entre les derniers otages israéliens et les prisonniers palestiniens, a indiqué l'un d'eux après des discussions la semaine passée au Caire. Nous attendons que les médiateurs lancent la deuxième phase, a précisé le second. Israël avait affirmé samedi que les négociations sur la deuxième phase de l'accord de trêve qui vise à la libération des derniers otages et à la fin définitive de la guerre, reprendrait ce lundi aux États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture. Dimanche, Donald Trump avait assuré que les discussions sur le Moyen-Orient avec Israël et plusieurs autres pays progressaient. La première phase dure 6 semaines. Elle doit permettre la libération de 33 otages en échange de plus de 1900 Palestiniens détenus par Israël. La deuxième phase vise à la libération des derniers otages et à la fin définitive de la guerre. Une troisième phase est supposée définir les modalités de la reconstruction de la bande de Gaza et de sa gouvernance dans le futur.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'arrêt de l'aide américaine provoque des inquiétudes majeures en Afrique, où de nombreux programmes de lutte contre le sida sont menacés. Des leaders africains, comme l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, considèrent cette situation comme une appel à la souveraineté du continent et à la réduction de la dépendance à l'aide étrangère. Les bourses mondiales ont souffert lundi après l'annonce de nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump au Canada, au Mexique et à la Chine, propulsant le dollar mais aussi l'or jusqu'à un nouveau record. Le Canada a riposté samedi en imposant 25% de droits de douane sur les produits américains. La Chine a assuré qu'elle prendrait les mesures correspondantes pour protéger ses droits et intérêts. L'OPEP a confirmé ce lundi son calendrier d'augmentation progressive de sa production d'eau brute à partir d'avril. Une première tranche de 2,2 millions de barils quotidiens doit être graduellement remise sur le marché chaque mois pendant 18 mois. Alors que les cours de l'or noir stagnent autour de 75 $ le baril, la décision a été prise après des déclarations du président américain Donald Trump invitant l'OPEP à augmenter sa production pour faire reculer les prix.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
La CAF annonce le calendrier des matchs de la prochaine CAN prévue en fin d'année au Maroc.
Oui, un agenda bien fourni sur 9 stades répartis dans 6 villes avec comme match d'ouverture Maroc-Comores. Le 21 décembre 2025, au nouveau complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, les 6 villes concernées sont Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès, Tanger et Rabat. En tout, 52 matchs seront disputés sur 29 jours, soit jusqu'au 18 février 2026. Pour rappel, le Royaume chérifien accueille la grand-messe du football africain pour la première fois depuis 1988 et se prépare aussi à co-organiser la Coupe du Monde de 2030 avec l'Espagne et le Portugal.
L'instance dirigeante du foot africain modifie le règlement de ces deux compétitions de clubs.
C'est pour permettre aux clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF d'inscrire des joueurs qui ont déjà participé à l'une des deux compétitions au cours de la même saison. En modifiant ce règlement, la CAF adopte désormais les mêmes textes que l'UEFA pour la Champions League et l'Europa League. La CAF prolonge la date limite d'inscription des joueurs jusqu'au 28 février. Pour l'instance qui gère le foot en Afrique, cette modification apportée au règlement va contribuer à rendre les matchs interclubs attractifs et pourrait aussi améliorer le niveau de ses représentants au Mondial des clubs de la FIFA qui se tiendra ici aux États-Unis en juin-juillet prochain.
Ici en NBA, Cleveland écrase Dallas.
Dallas a été assommé par Cleveland 144-110. À noter aussi le comeback de Boston. Deuxième à l'Est, le champion en titre a bien failli lâcher encore une longueur, mais a évité de justesse la défaite contre Philadelphie. Les Celtics ont dû refaire un retard de 26 points en fin de troisième quart-temps pour finalement battre les Sixers 118-110. Les Memphis Grizzlies, amenés par Jaren Jackson Jr., 37 points, ont battu les Bucks à Milwaukee 110-118. Les 30 points et 11 rebonds de Giannis Antetokounmpo n'ont pas suffi pour empêcher les Bucks d'encaisser une troisième défaite d'affilée. Autre résultat, Toronto s'est imposé face aux Los Angeles Clippers 115-108 et Détroit a battu Chicago 127-119.
Pour finir, nous revenons sur les derniers transferts en NBA.
Avant de quitter Dallas pour les Lakers, Luka Doncic a adressé ses remerciements aux supporters des Mavericks. Il y a 7 ans, je suis arrivé ici à Dallas encore adolescent pour réaliser mon rêve de jouer au basket au plus haut niveau. Je pensais passer toute ma carrière ici, raconte le Slovène de 25 ans dans un message sur les réseaux sociaux. Engagé par Atlanta lors de la draft 2018, Doncic avait immédiatement rejoint Dallas, pour qui il a affiché cette saison en moyenne par match 28,1 points, 8,3 rebonds et 7,8 passes décisives. L'an dernier, il avait terminé meilleur marqueur de la saison régulière avec 33,9 points de moyenne. Mais au lieu de poursuivre sur sa lancée à Dallas, son transfert chez les Lakers, en échange du pivot vedette de la franchise californienne, Anthony Davis, a pris tout le monde de coup dans la nuit de samedi à dimanche. De leur côté, les Spurs bénéficient d'un renfort de choix à la personne du meneur De'Aaron Fox, qui pèse pas moins de 25 points de moyenne par match. San Antonio traverse une passe difficile, 12e rang de la conférence Ouest, à 2 rangs de la dernière place du barragiste.
Merci à Cuba.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monet-Zero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'administration Trump continue de défendre la nécessité d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance du Canada, de la Chine et du Mexique. Les trois pays ont menacé de prendre des mesures de rétorsion, mais se disent toujours ouverts au dialogue et à la coopération avec les États-Unis. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA nous en parle. Le récit est de Lionel Gahima.
Les États-Unis affirment que le Canada, le Mexique et la Chine n'ont pas fait assez pour arrêter le flux de fentanyl et les traversées illégales vers les États-Unis. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Christine Noem, s'est exprimée sur le sujet dimanche dans l'émission Meet the Press de la chaîne NBC.
Ces pays ont la possibilité de se rallier au président des États-Unis et de s'associer à nous pour lutter contre l'immigration clandestine, pour reprendre leurs ressortissants qui se trouvent illégalement dans notre pays.
Les analystes avertissent que les droits de douane pourraient entraîner des hausses de prix sur les produits frais et les pièces automobiles, parmi d'autres produits de base que les Américains achètent. Le président américain Donald Trump a pris la parole sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social dimanche et a reconnu les perturbations potentielles en écrivant notamment « Y aura-t-il de la souffrance ? Oui, peut-être et peut-être pas, mais nous prendrons à l'Amérique sa grandeur et le prix à payer en vaudra la peine. » La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristen Noem, a également abordé la question lors de son passage sur NBC.
Si les prix augmentent, c'est à cause des réactions des autres aux lois américaines.
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé samedi des mesures de rétorsion, notamment des droits de douane de 25% sur les produits américains. Mais le pays de Trudeau mise toujours sur la coopération bilatérale. L'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kristen Hillman, a déclaré à l'émission This Week de la chaîne ABC.
Nous nous rendrons en Chine dans les prochains jours avec des représentants de la Maison Blanche, notre police, pour tenter de résoudre le problème des précurseurs. Il est donc difficile de savoir ce que nous pouvons faire de plus, mais nous sommes évidemment ouverts à toute autre suggestion qui nous parviendrait.
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également appelé les États-Unis et le Canada à continuer de travailler ensemble pour relever les défis communs, mais a annoncé sur X que son pays était prêt à imposer des mesures de rétorsion tarifaire et non tarifaire. La Chine a annoncé qu'elle allait contester la mesure tarifaire américaine auprès de l'Organisation mondiale du commerce, mais n'a pas précisé les contre-mesures qu'elle envisageait et a exhorté Washington à engager le dialogue.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est ici à Washington DC pour rencontrer le président Donald Trump. Le Hamas a libéré trois nouveaux otages israéliens, dont un israélo-américain, après près de 16 mois de captivité. De son côté, Israël a libéré des dizaines de prisonniers palestiniens. La prochaine phase du cessez-le-feu à Gaza devrait être à l'ordre du jour de la rencontre de mardi. Depuis Jérusalem, le reportage de Linda Gladstein, récit Yacouba Ouedraogo.
Steve Siegel, 65 ans, qui possède la double nationalité américaine et israélienne, a été l'un des trois otages libérés samedi après avoir été détenu par le Hamas pendant près de 16 mois. Lui et sa femme Aviva ont été enlevés à leur domicile de Far Aza le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza dans leur propre voiture. Aviva a été libérée en novembre 2023 et a fait campagne sans relâche pour sa libération. Deux autres citoyens américains sont toujours détenus et quatre ont été déclarés morts. La première phase du cessez-le-feu a commencé juste un jour avant l'entrée en fonction du président Donald Trump. Certains analystes israéliens estiment que c'est lui qui a poussé le Hamas et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à conclure l'accord. Netanyahu affirme qu'il considère Trump comme un grand ami d'Israël.
Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous porterons l'alliance États-Unis-Israël à des sommets encore plus élevés. Je suis convaincu que nous parviendrons à vaincre l'axe terroriste iranien et que nous ouvrirons une nouvelle ère de paix et de prospérité pour notre région.
Les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu avec le Hamas devraient commencer alors que Netanyahou devient le premier dirigeant étranger à rencontrer le président Trump à la Maison-Blanche. La deuxième étape prévoit la libération de tous les otages israéliens, un cessez-le-feu à long terme à Gaza et le retrait des troupes israéliennes. Netanyahou hésite à aller de l'avant.
Gaïl Talchi est professeur de sciences politiques à l'Université hébraïque.
La seule personne qui peut réellement faire en sorte que Netanyahou poursuive l'accord est le président des États-Unis, Donald Trump lui-même.
L'un des anciens partenaires de la ligne dure de la coalition de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, s'est retiré du gouvernement et un autre, Bezalel Smotrich, a déclaré qu'il quitterait le gouvernement si celui-ci maintenait le cessez-le-feu. Cela pourrait entraîner la chute du gouvernement de Netanyahou et provoquer de nouvelles élections. Les analystes israéliens affirment que Trump a une vision plus large du Moyen-Orient. De nouveau, Gaïl Talchi, professeur de sciences politiques à l'Université hébraïque.
Nous connaissons les deux grands objectifs que Trump a mis sur la table. Le premier est de ramener tous les otages. Le second est d'avancer vers la paix régionale avec les Saoudiens. Et nous savons également que les Saoudiens ne seront pas en mesure d'aller de l'avant avec un tel accord sans qu'il y ait une composante palestinienne.
Pour les Palestiniens de Gaza, la priorité absolue est la reconstruction. Trump a déclaré que plus d'un million de réfugiés palestiniens pourraient être accueillis par la Jordanie et l'Égypte, une idée que ces pays, ainsi que les Palestiniens, considèrent comme irréaliste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Lorsque des incendies se sont déclarés dans la région de Los Angeles en Californie, les habitants se sont tournés vers une application pour obtenir des informations immédiates sur les dangers liés aux incendies. Michel Quinn nous en parle dans ce reportage relaté par Michel Joseph.
Alors que les incendies de Los Angeles menacent des communautés, les habitants et les premiers intervenants ont besoin d'informations qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Par exemple, les zones d'évacuation, la direction du vent et de la fumée, les coupures de courant et bien d'autres encore. Beaucoup se sont tournés vers Watch Duty, une application gérée par une équipe opérant à des centaines de kilomètres de là, dans le nord de la Californie. Watch Duty fournit aux habitants des informations cruciales sur les nouvelles épidémies, les changements de régime de vent et d'autres sujets de préoccupation. Ce centre virtuel d'opération d'urgence fournit des mises à jour quartier par quartier au fur et à mesure de l'évolution de la crise. Nick Rosso est vice-président des opérations de Watch Duty. Il a parlé à VOA sur Zoom.
My emergency and my neighbor who lives.
Mes urgences et celles de mon voisin, qui vit à environ 400 mètres de moi, sont très différentes. C'est vrai pour toutes les communautés et c'est là que la technologie entre en jeu.
Le fait que Watch Duty fournisse des informations détaillées et localisées est l'une des raisons de sa popularité auprès de ses 7 millions d'utilisateurs, dont beaucoup ont téléchargé l'application au cours des dernières semaines. Le succès de Watch Duty montre que les technologies telles que l'intelligence artificielle et les capteurs permettront aux habitants et aux premiers intervenants d'obtenir les informations en temps réel dont ils ont besoin pour survivre et lutter contre les catastrophes naturelles. Alert California, géré par l'Université de Californie à San Diego, est l'un des partenaires technologiques de Watch Duty. Son réseau de plus de 1000 caméras équipées de IA dans tout état recherche la fumée, détectant souvent les incendies avant que les gens n'appellent les services d'urgence. De nouveau, Nick Russell.
Ensemble, nous devenons les yeux et les oreilles et nous diffusons ensuite ces informations dans des rapports destinés au public par le biais de notre plateforme.
Un autre partenaire de Watch Duty est N5 Sensors, une entreprise basée dans le Maryland. Ses capteurs au sol détectent la fumée, la chaleur et d'autres signes d'incendie, nous dit Nick Russell.
Ils sont comme un nez, si l'on peut dire, et détectent les anomalies de la fumée et les différents schémas chimiques dans l'air.
Le service de Watch Duty couvre 22 États, principalement dans l'ouest des États-Unis, et prévoit de s'étendre à tous les États. Bien que les incendies soient au centre de ses préoccupations, Watch Duty prévoit également de suivre d'autres catastrophes naturelles, telles que les tornades, les ouragans, les tremblements de terre et les tsunamis, nous dit Nick Russell.
Nous voulons être ce guichet unique où les gens peuvent se rendre et obtenir ces informations dans ces moments difficiles afin de disposer d'une source qui explique clairement et de manière concise ce qui se passe.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Togo, la Legal Tech s'impose comme une solution innovante pour faciliter l'accès aux services juridiques. Grâce à des outils technologiques avancés, cette solution contribue non seulement à simplifier l'accès aux droits tout en réduisant les inégalités, mais elle s'engage pour une justice plus inclusive. Illustration avec la Legal Tech Mia Beloya, qui œuvre à démystifier le droit et à le rendre compréhensible pour tous en intégrant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation pour faciliter l'accès aux droits. Reportage de notre correspondante Amen Hassignon à Lomé.
Deux parties s'engagent. Ici, par
exemple, gérant d'une entreprise spécialisée dans le coaching, le branding et des solutions performantes, Amaga a fait l'expérience il y a 2 ans d'une Legal Tech pour mieux structurer ses services et gagner en crédibilité auprès de ses clients. Et depuis, ils ne s'en passent plus.
Le produit qui nous a plus intéressé, c'est leur boîte à outils. Parfois, un client qui n'est pas assez expérimenté peut vous faire faire des modifications plusieurs fois sur une prestation qui vous perd le temps, alors que vous n'aviez pas prévu ça au préalable. Alors qu'avec la boîte à outils, vous avez un contrat de prestation qui vous permet de pouvoir limiter ce nombre, par exemple, de corrections, de permettre au client aussi de pouvoir être sérieux et de vous permettre de gagner du temps et de l'argent.
Rendre le droit accessible grâce à des solutions numériques adaptées. Au Togo, la Legal Tech dénommée Mia Beloya en a fait son cheval de bataille. Incarnée par une jeune juriste d'affaires engagée dans la croissance des entreprises en Afrique, cette solution technologique se consacre à la vulgarisation de l'éducation juridique et se positionne sur la sécurisation des biens et intérêts des PME.
Aujourd'hui, la Legal Tech Mia Beloya révolutionne la gestion contractuelle, la gestion des risques de conformité et permet également aux juristes de pouvoir valoriser son impact en termes d'impact économique sur le continent.
La plateforme dispose d'une boîte à outils qui permet de faire une gestion contractualisée de façon automatique, mais aussi de manière adaptable pour répondre aux besoins des utilisateurs. Générateurs de documents juridiques, consultations en ligne, outils pédagogiques sont autant de services qu'elle offre. Elle intègre des technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour améliorer le choix intuitif de l'outil, une solution qui transforme la pratique du droit. Attestent les professionnels de droit.
Elle étudie le professionnel du droit en ce sens que le professionnel du droit peut également avoir des documents automatisés et des documents standardisés qui sont déjà rédigés, où le professionnel, pour gagner du temps, peut avoir recours tout simplement de ces documents-là pour faciliter la rédaction des actes juridiques. Et pour la rédaction d'un contrat, par exemple.
Au-delà de l'innovation technologique, Mia Beloya veut apporter sa contribution dans la démocratisation du droit pour une justice plus inclusive. En cela, la Legal Tech a mis en place un centre d'écoute.
Un centre d'écoute pour écouter les personnes qui sont en situation conflictuelle avec d'autres personnes, notamment les femmes qui sont en situation vulnérable, les femmes qui sont dans des procédures de divorce, qui subissent des violences conjugales, des femmes et des familles qui, lors de la perte, par exemple, d'un conjoint, du mari, se retrouvent à la merci de famille. Nous apportons du conseil et de l'orientation pour qu'ils comprennent que la loi, elle existe d'abord pour les protéger.
Pour renforcer son impact social, la plateforme a adopté un modèle tarifaire avec des services gratuits pour les utilisateurs aux revenus modestes. Amen Hassignon pour VOA Afrique, le Lomé.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et à la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.